Bonjour à toutes, l'heure est encore au vœu. Donc Radio Galaxy vous souhaite une excellente année 2018. Je suis accompagnée de Bernard Ferrand qui certainement va vous souhaiter aussi ses vœux. Bonjour Bernard.
Bonjour à tout le monde et meilleurs vœux. Alors puisqu'on est en économie, je dirais meilleurs vœux de la situation économique pour chacun.
En effet, ça c'est bien dit, merci beaucoup. Les fêtes sont finies et on sait qu'après la fête, le pain reste. Je l'ai toujours entendu dire. On va essayer de voir ensemble quelle situation nous sommes en train de vivre et plus particulièrement où nous en sommes dans la situation économique de notre pays.
Oui, on démarre une nouvelle année. Oui. On peut faire déjà un bilan de l'année 2017 et considérer les différents points qui vont bien et certains qui vont peut-être un peu moins bien ou des endroits où on a quelques doutes.
Oui.
On va le voir d'une manière très synthétique en prenant certains indicateurs et on ne fera pas le tour complet de tous les indicateurs,
non,
bien sûr.
Il y en aurait à dire et à faire.
Beaucoup.
Oui. On va commencer par les comptes extérieurs.
Oui, les comptes extérieurs, c'est en fait nos exportations, nos importations qui sont quand même un signe de toute façon pour l'emploi, pour la consommation et pour l'endettement du pays. On perd de vue très souvent cet indicateur. Eh bien, la France continue à être déficitaire. Ça signifie très simplement que nous ne sommes pas assez compétitifs certainement sur certains points et que nous importons grâce à la reprise économique. Ceci traduit en fait une faiblesse de notre industrie.
Oui.
Et donc des entreprises.
Est-ce qu'il n'y a pas un trop grand train de vie peut-être aussi ?
Non, pas nécessairement, peut-être pas nécessairement. Ce qui, peut-être que c'est difficile d'évaluer là, la consommation et son contenu. Mais très simplement, on achète des produits qui sont fabriqués en France et des choses qui sont fabriquées hors de France et très loin. Mais aussi, on achète des loisirs, on achète des voyages, etc. C'est ça que traduit la balance extérieure.
Mmh.
Ben, pour l'instant, et depuis plusieurs années, et ça dure, nous sommes déficitaires. Quelque part, ça veut dire qu'on emprunte au reste du monde.
Oui.
Et un jour, eh ben, il faudra bien payer.
Oui.
Mais ceci est surtout dû à cause des biens de production, c'est-à-dire des machines, tout ce qui est nécessaire à investissement. Et là-dessus, les entreprises françaises ont perdu pied, on peut le dire aujourd'hui. Il y a une désindustrialisation de notre pays, en particulier au niveau de tout ce qui est l'industrie mécanique.
Justement, ça nous amène tout simplement aux entreprises, tout ça.
Tout à fait, aux entreprises. Alors, ce qui va mieux pour les entreprises, d'une manière un peu paradoxale, en France, c'est que leur taux de marge sur leur production a augmenté. Elle a retrouvé un niveau en 2017 qu'on qualifie habituellement pour les économistes de souhaitable. C'est-à-dire, le taux de marge, c'est ce qui reste de l'entreprise et qui sert à investir, donc essentiel, à payer les intérêts de tous les emprunts, bien sûr, et puis, bien sûr, à donner une part de bénéfice aux actionnaires.
Oui.
Là-dessus, souvent, les entreprises françaises, on le sait, exagèrent beaucoup.
Oui.
Elles donnent beaucoup aux actionnaires au détriment de l'investissement.
Oui, mais là, vous parlez des grosses entreprises multinationales ou la plus petite du coin,
à côté de Chine. Petite. Lorsque vous prenez une petite entreprise comme nous en avons ici, dans le Volvestre, des Pyrénées jusqu'à Toulouse, des entreprises de 10 personnes, par exemple, que fait le patron ? Est-ce qu'il garde une grosse part pour lui-même ? C'est lui l'actionnaire principal. Est-ce qu'il garde l'essentiel pour lui, pour sa famille, à titre de rémunération ? Voilà, il n'y a pas de problème. Et qu'il n'investit pas.
Oui.
Cette PME, si elle fait des bénéfices, bien sûr, elle va rembourser, elle va payer les intérêts sur ses emprunts, elle va avoir, etc. Et puis ensuite, elle peut investir. Elle a l'argent.
Mm-hmm.
Est-ce que, si elle se l'attribue le patron lui-même, ben voilà, le taux de marge est parti.
Oui.
Alors, ne pas oublier que nous sommes dans une année électorale particulière, en 2017, avec un changement de président, un changement de politique économique.
Oui,
c'est pour cela que le bilan a de l'intérêt aussi de le faire. Parce que dans l'évolution des entreprises et dans la marge des entreprises, la fameuse politique de François Hollande qu'on appelle le CICE, c'est-à-dire un bonus, un crédit d'impôt pour les entreprises, on voit que ce crédit d'impôt a eu un effet, avec beaucoup de retard, pas très élevé, mais il a eu un effet, malgré tout, sur l'emploi et sur surtout la marge des entreprises. C'est un effet qu'on ne peut pas nier. Peut-être qui arrive bien trop tard et qui est très discutable dans son contenu. Mais pour dire qu'il a eu quand même de l'effet. En conclusion, lorsqu'on regarde la situation de la France et les comptes extérieurs, on peut dire que notre pays se désindustrialise. Les entreprises, il y en a de moins en moins dans la production de, non pas de biens, mais de biens, de machines, etc. Les pays qui se réindustrialisent, qui continuent, c'est l'Allemagne. Mais c'est aussi la Pologne, par exemple. Ne parlons pas de l'Angleterre, qui, elle, est désindustrialisée à fond la caisse.
D'accord. Mais est-ce que tout ça ne peut pas mener la France à la situation grecque, à un moment?
Oh, nous en sommes très loin.
Oui.
Nous en
D'accord.
sommes très loin. La situation grecque, on la reprendra au cours d'une émission.
Bien.
Parce qu'il y a beaucoup d'illusions sur la situation grecque.
D'accord.
D'une manière très simple, on veut dire la Grèce était mal barrée, on a profité pour lui mettre des volets de bâton. Elle s'en est pas sortie. Hein.
D'accord, entendu. Qui parle entreprise, évidemment, ça nous conduit à l'emploi.
Bien, ça nous conduit à l'emploi tout simplement, puisque
là, il y a à dire.
Derrière, c'est le grand souci de notre pays avec un taux de chômage qui est très élevé, qui est autour de 10%. L'emploi, il y a eu un effet, CICE, les politiques menées par les gouvernements précédents, et puis surtout, il y a une reprise mondiale. Il y a une reprise en Europe et il y a une reprise mondiale. C'est-à-dire que le taux de croissance est là, même s'il n'est pas fantastique, 2% par exemple, 2,2, c'est quand même très fort et ça a de l'effet sur l'emploi. Donc, il y a eu des créations d'emplois, c'est très clair, en particulier sur les deux premiers trimestres de 2017, puisqu'on peut parler qu'il y aurait eu 300 000 créations d'emplois, essentiellement dues au secteur privé,
d'accord,
à 90%. Mais ce chiffre cache une certaine réalité qui n'est pas aussi reluisante que ça. Ce sont des emplois peu qualifiés essentiellement, ce sont beaucoup de temps partiel et ce sont aussi dans l'intérim. Et la reprise a été très forte dans l'intérim. Et nous avons à travers ces chiffres-là aussi des effets pervers qu'il faut souligner. En
oui.
particulier, les jeunes très diplômés trouvent de l'emploi. C'est vrai, ceux qui ont des études assez longues trouvent de l'emploi. Mais justement, aujourd'hui, cet emploi est trop souvent très peu qualifié par rapport à leur diplôme. Donc, on est en train de faire une génération de frustrés. Attention, de frustrés, des gens qui ont leur famille, qui ont fait des études longues, qu'il a fallu financer, faire des efforts, et ils se retrouvent avec des emplois peu payés, pas inintéressants, mais peu payés. Donc, ils vont avoir, comment dirais-je, une petite rancune, un petit dégoût quand même.
Oui.
Et en prenant les emplois des gens peu qualifiés, eh bien, les gens peu qualifiés, réellement, ils ne trouvent plus de boulot.
Oui.
C'est là la chaîne. Et là, on a une catastrophe en France, une vraie catastrophe, qui est aussi un peu dans les pays voisins. C'est que les jeunes peu qualifiés, leur chance d'accéder au marché de l'emploi, eh bien, elle est très faible. Et en France, on avait une mesure phare, c'était les emplois aidés.
Et oui.
Je rappelle très simplement, c'était une aide du gouvernement, allègement de cotisations sociales, etc., etc., pour qu'une collectivité locale, essentiellement le secteur public, prenne un jeune et lui signe un contrat, 6 mois, 1 an, sur ce type de contrat aidé. C'était une façon de remettre, comme on dit, le pied à l'étrier,
oui,
ou de remonter sur le vélo.
Oui.
On peut prendre toutes les images. Eh bien, le gouvernement actuel a décidé de les supprimer. Au début, brutalement, et puis les collectivités locales, les associations ont poussé de gros cris, évidemment. Et donc, ils l'ont un peu étalé dans le temps. Mais les 400 000 emplois aidés qui vont être supprimés sur 1 an et demi, ben, on va les retrouver à Pôle emploi,
oui,
tout simplement. Et ça, c'est une mesure qui fait débat.
Oui.
Et on ne pourra pas trancher. Maintenant, nous sommes au mois de janvier, on ne peut pas trancher sur les faits.
Oui.
On sait très bien que mécaniquement, ça va générer une augmentation du chômage. Mais peut-être que derrière, il y aura des effets peut-être positifs sur les statuts des gens employés. On le verra dans le temps. Il faudra faire un point au mois de juin, certainement.
D'accord, très bien. Autre chose aussi qui n'aide pas trop l'emploi local, ou l'emploi en tout cas français, pour les gens qui sont au chômage en France, c'est le travail délocalisé.
Alors, le travail délocalisé existe depuis bien longtemps.
Oui.
C'est très simplement, le travail délocalisé, c'est l'entreprise qui se délocalise. Et puis, il y a deuxième aspect, c'est le travailleur d'un pays européen qui vient travailler en France tout en étant théoriquement soumis aux cotisations sociales de son pays, c'est-à-dire extrêmement basses et avec aucun contrôle.
Oui.
Donc là, c'est le travailleur qui est délocalisé,
oui,
déplacé. Si on parle de délocalisation, on a tous en tête, par exemple, au mois de décembre, ce qui s'est passé pour une entreprise qui fabrique des boîtes en plastique, que je ne nommerai pas,
oui,
qui est parti en Pologne, en laissant 300 personnes sur le carreau en France. Effectivement, on assiste à ces mouvements d'entreprises qui vont là parce que le travail est moins cher, ou parce que la fiscalité n'est pas la même, ou parce que les contraintes ne sont pas les mêmes. Pour la Pologne, c'est le cas. C'est le coût du travail, c'est le cas qui a été avancé par cette entreprise, etc. Mmh. C'est une entreprise qui n'a pas beaucoup de concurrents, en fait, qui travaille beaucoup sur son image, et c'est, à mon sens, largement injustifié.
Mmh.
Ouais, ils sont simplement allés là-bas pour faire un bénéfice beaucoup plus haut, pour, oui, se l'approprier, se le distribuer entre eux.
D'accord.
Voilà, c'est très clair.
Ouais.
Et là-dessus, moi, je dis ce que j'ai fait au mois de décembre. Eh bien, cette entreprise qui fabrique ces boîtes, je n'achète aucune de ces boîtes.
D'accord.
C'est terminé pour moi. Ça, c'est un geste citoyen.
Tout à
parce
fait.
Que ce n'est pas une raison d'aller conquérir un marché. L'entreprise, souvent, pour conquérir un marché, eh bien, il faut qu'elle aille faire un atelier sur place. Il faut qu'elle donne une couleur locale au produit.
Mm-hmm.
C'est sûr. Eh bien, non. Là, c'est uniquement pour s'en mettre plein les fouilles.
Oui.
Merci. Au revoir les boîtes. Je mets dans des pièces qui sont simplement en métal ou en porcelaine au frigo.
Très bien. Un sujet aussi dont on a parlé en 2017, on en avait parlé un petit peu avant, mais en 2017 on en a parlé, c'est le salaire unique. Qu'est-ce qu'il en est de ce salaire unique ?
C'était un débat au niveau de la présidentielle.
Oui, il y a eu quand même des essais, je crois, dans quelques...
Alors, il y a des endroits où on tente, on tente cette démarche. Il y a des villes où on tente cette démarche. C'est quelque chose d'expérimental. C'est quelque chose qui renvoie aussi à l'analyse du futur.
Oui.
En sachant que 80% des économistes disent que le volume dans l'emploi, la quantité d'heures de travail va diminuer dans une population mondiale qui augmente. Il y en a 20% qui ne sont pas d'accord. Parmi ces 20%, il y a M. Trump, par exemple, très caractéristique. Mmh. Ou Mme May en Grande-Bretagne.
D'accord.
Mais le salaire unique, c'est une vision de notre société future, avec les soucis que ça fait. On voit le chômage. Il y a des gens qui disent, mais on ne va pas donner de l'argent à des chômeurs. Ces chômeurs, ils sont là, ils attendent, ils foutent rien. Oui, par définition, il est au chômage. Il ne fait rien. D'ailleurs, théoriquement, ça lui interdit de travailler au noir aussi. Hein.
Oui.
Eh bien, voilà, on leur distribue de l'argent. Il y a des gens qui disent que c'est une honte. Ça aussi, c'est quelque chose issu dont on avait fait une émission, il y a des mois, sur le courant libertarien.
Oui, en effet.
Et ça aussi, et sur le salaire unique, et sur le revenu unique, donc la notion de revenu universel, on y reviendra.
Mm-hmm.
Parce que, d'une façon ou d'une autre, dans nos sociétés, eh bien, il y aura une partie de la population qui n'aura pas de travail. On sait très bien qu'il faut diminuer la quantité de travail pour chacun. Ce n'est pas dans l'air du temps, visiblement. Mais au final, avec le machinisme, il y a plein d'emplois qui disparaissent.
Oui. On en est toujours à l'emploi. On va arriver à ce sujet qui a fait un petit peu le buzz au mois de novembre, je pense que c'était.
Oui,
hein.
C'était
est-ce que c'est vrai que l'on peut geler le SMIC, voire le descendre, le baisser, pour qu'il y ait moins de chômage? Est-ce que ce n'est pas contradictoire, tout ça?
Ah, ça touche un tas de choses. Mais du point de vue économique, ce qui était dit, c'est que le SMIC, tel qu'il était conçu en France, avec une indexation à l'évolution des prix, donc à l'inflation, et de l'autre côté, le gouvernement pouvait lui donner ce qu'on appelle un coup de pouce, était un obstacle à l'emploi. L'argument était le suivant. Le premier argument qui est fort, c'est que l'échelle des salaires dans les entreprises petites, moyennes, grandes est calquée sur le SMIC. Donc dès que vous augmentez le SMIC, derrière, tout augmente. Sur le papier, bien sûr, tous les autres salaires augmentent. Donc pour les entreprises, ça signifie un accroissement du coût du travail. C'est vrai aussi. Bon, est-ce que ça va baisser leur compétitivité ou pas? Donc pour ces économistes, hein, on ne va pas les nommer, il y en a un qui est assez célèbre, qui défendent cette théorie comme le SMIC est un obstacle à la création d'emplois, ils disent si vous augmentez le prix du travail, eh bien, vous poussez à la diminution de l'emploi. Ce n'est pas toujours faux, il faut le reconnaître. Si le coût du travail augmente, mais d'une manière significative, telle entreprise peut dire, eh bien, moi je m'en vais en Pologne. Vous voyez ?
D'accord.
Il y a quand même toujours cette, hein, le prix de revient du produit dans une entreprise, c'est quelque chose qui joue dans sa politique globale. Et ça paraît logique. Parce que vous avez des entreprises françaises qui disent, eh bien, on fabrique tel produit, notre concurrent il est chinois, on en a un autre en Inde, et demain on va en avoir un autre en Afrique du Sud. Quand vous regardez les salaires dans ces pays, et le salaire minimum en France, ça fait cet effet-là. Mm-hmm. On se dit, bon, ben, il va pas l'entreprise va fermer, elle ne tiendra pas le coup. Et on a des secteurs entiers qui se sont désindustrialisés par manque de compétitivité. En étant bien d'accord que ce manque de compétitivité n'était pas toujours que le salaire. Hein.
Oui.
Il y a beaucoup d'autres éléments, qui, en particulier la recherche.
Oui.
Mais ça joue. Donc, ce que disent aussi ces économistes, c'est regardez autour de vous, donc dans des pays européens, où le salaire minimum n'existe pas, ou alors il y a un salaire plancher, c'est le cas de l'Allemagne. Voilà, il y a un salaire plancher, 470 euros en décembre 2017, si je ne fais pas d'erreur. Eh bien, au-dessus, c'est libre, ça se négocie. Et ils disent, les entreprises allemandes, ben, elles emploient, il y a beaucoup d'emplois, il y a un taux de chômage très faible en Allemagne, c'est vrai. Donc, ils argumentent là-dessus pour faire sauter le SMIC. Moi, ce que je dis derrière, c'est très simple. Quand vous versez de l'argent à un SMIGard, dans le mois qui vient, il aura tout cramé dans les supermarchés. Donc, il a fait tourner l'économie.
Oui, tout à fait.
Vous supprimez le SMIGard, vous ne lui mettez plus rien. Bon, qu'est-ce qu'il va faire? Il va réduire sa consommation, ou il va voler, que sais-je. Hein, il va s'abonner aux associations caritatives, que de pas dire ailleurs, le patron aide en passant sur Radio Galaxie ou à la télévision, puisqu'il est un patron généreux. Il donne.
Hein, oui.
Et où va-t-on dans ce système-là? On crée une forme de nouvelle pauvreté, ou du moins on l'amplifie. Mm-hmm. Il faut être à peu près cohérent dans nos sociétés. Un ménage avec deux ou trois enfants, avec un seul des membres du ménage qui travaille au SMIC, c'est compliqué. C'est très compliqué, n'est-ce
pas ? Est-ce que si on descend le SMIC ou sur le gel, si on
non, ils veulent le supprimer, honnêtement.
D'accord.
Les ultras qui sont là derrière, hein, oui, qui sont d'ailleurs dans les cabinets du gouvernement actuel de M. Philippe, veulent le supprimer. Politiquement, ils ne pourront certainement pas dans l'année 2018, mais si le vide sa substance par des mesures annexes, ils vont le faire progressivement.
D'accord.
Ils ont cette idée-là.
Oui.
Et de dire derrière que le salaire entre un employé et un patron, ça se négocie librement, comme aux États-Unis.
Mm-hmm. Et donc ça va creuser les gens qui ne travaillent pas, ça va creuser le fossé quand même.
Ils disent des choses qui ne sont pas toujours fausses, il faut être honnête. Si vous dites le SMIC il est à 1200, bon, et si vous dites demain, il n'y en a plus. Bon, ben, les gens vont négocier. Il y a des gens qui vont prendre des emplois pour 500 euros, bien sûr. C'est logique aussi. Ben, l'employé, le patron pourra dire, oh ben, à ce prix-là, j'en prends deux.
D'accord.
C'est un raisonnement de cours de récréation.
Oui, mais alors, on voilà. aura quand même...
Deux, et donc l'effet sur le chiffre chômage se font. La réalité,
d'accord.
On regarde...
Je comprends tout ça.
Et oui, et quand on regarde la situation allemande, c'est quasiment du plein emploi. Mais... C'est ancien, ça date du chancelier Schröder, qui était un social-démocrate, qui avait libéré tout ça, justement. Et aujourd'hui, il y a une rémunération planchée, c'est tout. Et donc, en Allemagne, prolifèrent les petits boulots, prolifèrent les temps partiels, prolifèrent, etc. Et ils aboutissent à un taux officiel de chômage extrêmement bas.
D'accord.
Mais la réalité, comme on pourrait dire, il y a des millions de gens en Allemagne qui ont un travail, disons, partiel, peu intéressant, c'est sûr. Ça leur permet de survivre.
Oui. Mais est-ce que ça ne va pas aussi impacter la consommation et le pouvoir d'achat ?
Ça impacte. Sitôt que vous réduisez la rémunération des gens les plus modestes, eh bien, ça impacte la consommation parce que l'essentiel de leurs revenus part vers, effectivement, la consommation. Mmh. Lorsque vous réduisez les impôts des plus riches, c'est dans le programme de M. Philippe, notre Premier ministre. Vous réduisez, voire vous supprimez l'impôt des plus riches en disant que ça va avoir des effets très positifs sur l'économie. Sur la consommation, il n'y aura pas d'effet positif. Les personnes qui sont à des revenus de 2-3 millions par an, au niveau consommation, ils ont le top de la voiture, le top de la garde-robe des grandes marques. Voilà, ça va pas. On ne peut pas acheter 10 voitures de luxe par an. Bon, mm-hmm. Je veux dire, je ne vois pas ce qu'on peut augmenter.
Oui.
Bon, en disant aussi que le gouvernement dit qu'ils ont tellement d'argent qu'ils vont s'empresser d'investir dans les entreprises. Peut-être, mais où ?
Oui.
Où sont les paradis fiscaux,
hein. Oui.
Peut-être que ces milliardaires iront peut-être investir à ce qui leur paraît plus intéressant, c'est-à-dire des pays où il n'y a pas de fiscalité. Donc réduisons la fiscalité.
D'accord. Alors tout ceci, c'est bien aujourd'hui cette émission, elle s'enchaîne d'un maillon à un autre. On en arrive à l'endettement.
On en arrive à l'endettement parce que pourquoi ? Bien parce que c'est quelque chose de simple et quelque chose qui nous pend au nez. Très simple, je rappelle qu'on s'endette, c'est pour financer des dépenses immédiates. On n'a pas l'argent, on s'endette. Alors c'est pour la consommation, achat d'une voiture, etc. Ou un investissement. L'idée, on consomme tout de suite, on investit tout de suite et on rembourse plus tard. Quand il s'agit d'un investissement, on espère que les économies réalisées ou les futurs profits faits nous permettent de rembourser.
Oui.
Donc, le prêteur, banquier en l'occurrence, mais aussi on pourrait y mettre l'actionnaire, celui qui met de l'argent d'entreprise, il regarde et il suit à qui il a prêté. Il suit ce qu'on appelle sa capacité à rembourser. Et donc la capacité à rembourser, ben, ça dépend de la situation économique. Vous fabriquez un produit, il se vend bien, bon, l'argent rentre, vous allez pouvoir rembourser. Tout d'un coup, il se vend moins bien, vous êtes moins compétitif, que sais-je, ou il est plus adapté, votre produit, eh bien, vous êtes planté. Et nous, c'est notre situation, parce que la France est endettée vis-à-vis de ses citoyens, mais vis-à-vis du reste du monde. Alors, tout roule bien actuellement. Il faut être honnête. Les taux d'intérêt n'ont jamais été aussi bas. Ça, c'est grâce à la Banque Centrale Européenne. En passant, on peut le dire merci à M. Draghi. Donc, ça ne coûte pas trop cher de s'endetter. Et surtout, ça ne coûte pas trop cher de reporter le remboursement du capital. On repousse, on repousse, on repousse. Et nos banques le font d'ailleurs pour les particuliers. Ensuite, il y a, si vous voulez, l'économie, il y a une croissance qui se fait. Donc on se dit, si ça augmente, ça va, y compris pour l'État. Parce que l'État est quand même le premier endetté en France.
Oui.
Mais si, pour une raison quelconque, la situation mondiale se dégrade un peu, moins de croissance et derrière, augmentation des taux d'intérêt, eh bien, on a ce qu'on appelle un effet de ciseau. On va se faire découper sur place. Parce que notre capacité de remboursement pour notre pays, eh bien, elle est de plus en plus faible. Et notre taux d'endettement est énorme, énorme. Et le dernier président de la République, M. Hollande, n'a rien arrangé de ce point de vue. Alors qu'il s'était engagé, selon ce qu'on appelait les critères de Maastricht, à mener une politique de redressement des comptes. Il l'a fait à fin de période d'une manière très inégalitaire. Il faut savoir quand même que notre endettement, ça représente pour l'État presque 100% du PIB. C'est énorme.
Oui.
Derrière, il y a une petite bouée de sécurité. C'est que les Français sont épargnants, de grands épargnants dans le monde. On n'est pas toujours les premiers, on est souvent les seconds, les troisièmes. Les ménages français épargnent 15% de leurs revenus. C'est le chiffre pour 2017. C'est énorme. On a des portefeuilles de valeurs qui... Le montant de l'assurance vie en France est colossal, colossal, pratiquement un SMIC. Mm-hmm. C'est énorme. On est un petit peuple grognon, mais très prévoyant pour l'avenir. On épargne.
D'accord.
Peut-être que dans les générations futures, ça ne se fera pas.
Oui.
C'est une petite garantie, quelque part, en cas de crise.
Oui. Voilà. Qu'est-ce qu'on pourrait imaginer pour cette nouvelle année ?
Mais pour cette nouvelle année, soyons très clairs. On pourrait imaginer que notre croissance continue. Hein, c'est-à-dire, l'Europe peut continuer tranquillement une croissance à 2,5. Ça serait une bonne chose.
Oui.
On est sur une pente, il y a du positif dans l'économie. Hein, dans
oui.
les entreprises, on le sent, il y a du positif, on voit. Il y a le chômage qui diminue progressivement, pas très fortement, mais on sent, même si on se pose des questions, temps partiel, comme je viens de le faire. Mais c'est quand même une bonne chose. Les chiffres, par exemple, qu'on peut donner en ce début de mois de janvier, pour le mois de novembre, il y aurait eu en France quasiment 45 000 créations d'emplois. Ce n'est pas très important par rapport à tous ces chômeurs. Mais ça crée quelque chose. D'abord, pour ceux qui sont concernés, leurs familles, donc il y a un effet de boule de neige. Et puis pour la consommation. Donc, il y a des choses qui sont certainement positives de ce point de vue.
Mmh.
Ensuite, il y a d'autres éléments qui sont aussi positifs. Par exemple, la négociation du Brexit avec la Grande-Bretagne. Bien sûr, elle s'est conclue. Elle s'est conclue en sachant qu'il y a des choses qui ne sont pas réglées. Mais malgré tout, pour l'Europe, se débarrasser de l'Angleterre et du souci des Anglais peut être une très très bonne chose en fait. Tous les économistes en sont d'accord. Une très bonne chose. Pourquoi ? Parce que les entreprises anglaises Il va falloir qu'elles viennent s'implanter en Europe, sur le continent, pour continuer le business avec les Européens. Mmh. Elles l'ont fait tout le long de l'année 2017. Il y a plein d'entreprises anglaises, de banques qui sont en Angleterre, qui sont internationales, qui ont développé déjà des succursales en France. Donc des emplois, donc du travail pour la construction, tel qu'on a vu. Oui. Il faut le dire, en 2017 comme en 2016, le marché de la construction, de l'habitation, a eu un bon taux de croissance. Les gens qui travaillent dans le bâtiment vous le disent facilement. 2017, ce sera une bonne année. Ça a embauché, il y a des contrats partout, il y a du... on en fait des murs.
D'accord.
Et voilà. Oui. Mais par contre, il y a des effets de faiblesse aussi, que j'ai oublié de signaler tout à l'heure. C'est le gouvernement a un projet sur l'énergie. C'est un projet, ça reste un peu vague. Et est-ce qu'il y aura des mesures très concrètes ? Or, par exemple, dans la croissance économique qui vient, la plupart des économistes sont d'accord pour dire tout ce qui touche l'énergie est porteur de croissance. C'est un nouveau secteur, il y a des investissements énormes à faire, il y a du matériel installé, donc il y a un business énorme. Et ce business aboutira à limiter la dépense pour les ménages, bien sûr, en énergie, mais aussi... évidemment, pour sauvegarder notre planète qui est vraiment, en 2017 c'était le cas, mais en 2018 elle est vraiment toujours en danger. Elle est en danger par rapport au climat et elle est en danger par rapport à la géopolitique. Oui. Il y a quand même des forces lourdes dans notre monde et M. Trump n'y est pas pour rien. On le sent, il y a des risques de guerre qui continuent, qui croissent, jusqu'à quand ? Donc moi mon vœu pour tout le monde pour 2017 c'est de dire que pour chacun soit en paix chez lui et qu'on soit en paix dans notre monde. À bientôt.
À bientôt, meilleurs vœux.
Merci.